Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Netscape en live. Donc,
en live, voilà, donc avec les aléas du live. Je ne sais pas si vous m'avez entendu gueuler. On n'entend rien, Antoine, mais voilà, c'est comme ça qu'on a commencé cette émission.
En live sur Twitch. Donc voilà, Netscape, c'est notre humble tentative à Arrêt sur Image de cartographier la culture d'Internet. Et donc, d'autant plus humble qu'on on aborde une émission peut-être un petit peu au-dessus de nos moyens.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est pas mal de commencer justement en introduisant là-dessus sur le fait qu'il y a des choses qui nous échappent. Mais on a tenté, surtout toi, Rafik, de condenser ça de la manière la plus factuelle et complète possible dans les limites qui sont les nôtres.
Voilà. Alors, en se posant la question de savoir est-ce que la Silicon Valley était marquée du sceau du libertarisme
De manière plus ou moins consciente, voilà, comme tu vas très bien l'expliquer. Ouais.
Et notamment à travers la figure, vous l'avez vu sur la vignette de l'émission, d'un certain Elon Musk qui défraie assez régulièrement la chronique et qu'on a parfois du mal en France à catégoriser, on va dire, dans ses multiples excès médiatiques. Je suis donc en compagnie de l'intraitable Julie Le Baron.
Intraitable, merci.
Intraitable, parce qu'en fait, tu me fais penser à Gene Peters dans le western Les Grands Espaces. C'est-à-dire, une femme indépendante qui laissera vos chevaux traverser ses terres pour accéder à la source d'eau. Mais par contre, il ne faut pas la chercher. Hein. Fuck around and you found out, parce qu'elle manie très bien le fusil. Et si tu n'as pas vu Les Grands Espaces, j'espère que dès ce soir, tu vas t'y mettre, parce que c'est un excellent film. Donc avec Julie, on va se plonger un petit peu dans ce sujet très très politisé. On a fait le choix, donc petit disclaimer, de parler des libertariens à travers les termes que eux utilisent pour se définir. Donc on va dire mettre de côté nos propres opinions à leur sujet.
Oui, alors si on parle de chantre de la liberté d'expression ou de libre penseur. Voilà, on a nos idées, mais oui, c'est les termes qu'on va employer. Ouais.
Je ne dis pas qu'on prétend à la totale neutralité, mais on a tenté en tout cas de les présenter comme eux se présenteraient.
Il y a quelqu'un d'ailleurs qui nous dit dans le chat, l'humilité ne serait-elle point le contrepoint parfait avec la thématique de l'émission bourrée de mégalos. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de mégalos.
Effectivement. Musk en tête. Donc on va causer, pas vraiment de libertarisme, mais de techno-libertarisme, un terme effectivement bien barbare qui est parfois remplacé par le terme cyber-libertarisme, ce qui n'est pas plus simple à prononcer. Et surtout, on va chercher à comprendre sur quel type d'idéologie, donc plus ou moins consciente, comme tu l'as dit, s'est bâtie la Silicon Valley. Et on va également se demander si la structure même du World Wide Web n'invite pas, d'une certaine manière, à ce type
de profil,
d'idéologie,
ouais.
Voilà, et de profil. Donc rassurez-vous, on va prendre le temps de définir parfois les termes, d'autant que, comme je l'ai dit, il existe en France une certaine confusion dans l'emploi de ces mots, et c'est normal, puisque notre histoire politique européenne n'est pas l'histoire politique des États-Unis. Ça crée des conditions. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter un certain John Perry Barlow. John Perry Barlow, c'était un enfant mormon qui a grandi devant un poste de télévision qui diffusait en boucle des télévangélistes typiques de certains États des États-Unis. Et malgré tout, il a réussi à se désengager de ce monde ultra, ultra chrétien et donc de s'émanciper. Et à la fin des années 60, il est parti à New York. Il est là, entre autres, fréquenté la fameuse factory d'Andy Warhol. Tout en intégrant la prestigieuse université d'Harvard. Ce qui va d'ailleurs lui servir. Alors là, on est en train d'écouter un morceau
des
Grateful Dead, qui est en fait une des chansons que John Perry Barlow a composées pour ce groupe.
Oui, il y a eu vraiment du chemin, du télévangélisme
à Grateful Dead.
À Grateful Dead, ouais.
Tout à fait. Il s'est détourné de ses études de droit pour s'offrir une année sabbatique en Inde, parce que c'est l'époque aussi qui veut ça. Et donc, lorsqu'il revient à New York, il va pas mal fréquenter le tristement célèbre Needle Park. Si vous avez vu le film avec Al Pacino, Panique à Needle Park, vous savez de quoi je parle.
Très bon film.
Où, ben, tout simplement, il va dealer de la cocaïne. Et donc, c'est par son intermédiaire que les Grateful Dead, donc, dont on a vu un extrait, vont rencontrer le gourou du LSD, qui est Timothy Leary. Donc, il va miraculeusement survivre à toute cette époque de prise de drogue extrême. Et au milieu des années 80, donc plus précisément en 86, il va intégrer un groupe qui s'appelle The Well. Je crois que j'avais des captures d'écran de certains des fils de discussion de ce forum des années 80, donc WE2L.
Oui, pour Whole Earth Electronic Link,
c'est ça.
Qui tire d'ailleurs son nom du Whole Earth Catalog, donc le magazine de contre-culture américain de Stuart Brandt.
Tu sais mieux que moi.
De Stuart Brandt et de Larry Bryant.
Bravo. Donc The Well, en fait, c'est une communauté en ligne, peut-être même la première vraie communauté en ligne, je rappelle, on est en 86, qui est réputée pour ses débats de fond, en gros, sur le cyberespace, qui, à l'époque, on peut le dire, n'intéresse pas grand monde, vu que personne ne sait de quoi il s'agit exactement. Ouais. Nous, en France, on a le Minitel, Cocorico, et ça s'arrête, ça se limite à ça. Mais donc, sur The Well, ils sont déjà en train de se poser la question de qu'est-ce qui constitue les fondamentaux du cyberespace. Le magazine Wired, qui sera en gros la bible techno des années 90, je crois que c'est en 96, donc 10 ans plus tard, qui qualifieront The Well de, je cite, « la communauté en ligne la plus influente au monde ». Bon, ça, c'est The Wired qui le dit. Barlow siège au conseil d'administration de cette société, qui héberge le site pendant plusieurs années, et en 90, il va fonder l'Electronic Frontier Foundation, le EFF, avec ses collègues qui sont donc tous des militants des droits numériques. Donc il y a John Gilmore, Mitch Kapor, des gens comme ça. Et bon, on reparlera dans l'émission un jour, j'imagine, de l'EFF et notamment de la guerre qu'elle a menée avec les services secrets américains.
Oui, ça pourrait être l'objet d'une émission entière.
Je pense. Toujours est-il qu'en 1996, Barlow est devenu une sorte de gourou, il intervient très souvent sur The Well, est devenu une sorte de gourou et l'invité à parler dans une classe du collège de la North Shore Country Day School, où il va violemment marquer un jeune étudiant qui s'appelle Aaron Swartz, que je crois que tu connais bien.
Que je connais bien. J'ai eu la chance de lire un super bouquin sur lui que je recommande à quiconque s'intéresse à l'histoire d'Internet et aux licences libres et aux questions de droits d'auteur, plutôt l'annihilation des droits d'auteur dans le cas de Schwartz. C'est un livre qui s'appelle « Celui qui pourrait changer le monde » et qui est publié aux éditions B42. Et alors, Aaron Schwartz, c'est une personne très, très importante pour en ce qui concerne l'essor d'Internet. C'est à la fois un militant, enfin c'était, donc ce qui s'est suicidé en 2013, c'est à la fois une personne qui a participé à la fondation de Reddit.
Oui.
En fait, dans le sens où, alors il travaillait pour un site qui s'appelait, je suis perdue dans mes notes, il travaillait pour Infogami, donc qui a fusionné avec Reddit. Il est cité comme cofondateur, enfin il a été cité à une époque comme cofondateur, mais il est... cofondateurs de Reddit ont depuis dit non. Il n'était pas vraiment cofondateur. On travaillait sur Reddit avant même que Schwartz nous rejoigne. Et Schwartz avait par ailleurs quitté son poste en 2006 à la suite de l'acquisition de Reddit par Condé Nast. Parce que ce qu'il faut savoir sur Aaron Schwartz, c'est que c'est vraiment une personne qui avait des principes éthiques très forts, qui était pour une démocratisation de la connaissance au plus grand nombre. Chose qui l'a notamment poussé à télécharger l'intégralité du catalogue JSTOR. Donc JSTOR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte d'archive de publications académiques, universitaires, qui normalement sont payantes. Et lui, il les avait toutes téléchargées dans le but justement de les diffuser au plus grand nombre, parce que lui était donc fermement convaincu que c'est en donnant un libre accès à la connaissance que chacun pouvait y avoir accès et produire de la connaissance plus tard, pour résumer très grossièrement. Et alors malheureusement, il s'est suicidé un mois avant le procès qu'il encourait justement pour cette affaire, parce qu'il encourait une peine de, je ne sais plus, c'était assez astronomique, $1 million et 35 ans de prison.
Oui, pour avoir donc basiquement téléchargé des revues académiques.
Oui.
Et donc, en gros, voilà, le
Oui, et c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de ça, mais oui, il a participé à la création des flux RSS. Non, mais en fait, c'est
Creative
fou.
Creative Commons.
La licence Creative Commons, donc qui, pour rappel, en fait, autorise. Si on attribue, en tout cas, c'est vraiment le même principe que Wikipédia, dans le sens où on peut réutiliser un contenu tant qu'on l'attribue à la personne. Et c'est beaucoup plus permissif qu'un copyright classique, dans le sens où, par exemple, on peut choisir que son contenu soit accessible à tous, sauf, par exemple, et ça dépend des personnes, sauf si c'est pour une utilisation commerciale ou un truc du genre, mais en tout cas, bien moins restrictif que le copyright tel qu'on le connaît, quoi.
En tout cas, voilà, le père d'Aaron Swartz avait indiqué que, à la suite de cette conférence de John Perry Barlow, son fils n'a plus jamais été le même.
Oui. Il a été très influencé par lui. Il était aussi hyper très admiratif de Tim Berners-Lee, donc du coup qu'on crédite souvent comme étant l'un des fondateurs du World Wide Web. Les mots sont difficiles aujourd'hui, Rafik. Désolé. Et les flux RSS, tout à fait, Creative Commons, et puis il manifestait aussi beaucoup contre des projets de loi comme le SOPAL, la Stop Online Piracy Act.
D'accord.
Voilà, ça c'est pour résumer, parce que je pense aussi que Schwartz pourrait faire l'objet d'une émission complète.
D'accord. On te demande de faire attention à ton
micro. Ah pardon, c'est moi qui m'agite, excusez-moi.
Avec une motte de beurre qui fait la tronche.
C'est un caca, je crois, Rafik. Ah non, c'est un fromage.
C'est un fromage. Donc, je crois que c'est une motte de beurre, ça m'a, que je vais surnommer margarine du gras. Voilà. Mais donc ça s'arrête pas là, car cette même année où il donne cette fameuse conférence, John Perry Barlow se dit allez hop, pourquoi pas, et il décide de rédiger rien moins que la déclaration d'indépendance du cyberespace. Donc ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est un texte qui, dans l'année qui suit, va être partagé par pas moins de 40 000 sites. On rappelle qu'on est en 96, hein, il n'y a pas tellement de sites sur Internet.
Oui. Donc non, mais d'ailleurs, 96, c'est une date clé, parce que ce texte a été écrit en réaction à une loi sur les télécommunications. Oui. Donc, à l'époque, on est sous Bill Clinton, qui visait à censurer des contenus jugés offensants. Le terme est assez vague. En gros, la crainte, c'était de se dire, mais voilà, est-ce qu'il va être encore possible de dire des insultes en ligne, de dire le mot merde en ligne? Est-ce que ça va être possible de parler explicitement d'avortement? Tout ça, c'est les questions, en tout cas, qui sont au cœur du texte de la Déclaration d'indépendance.
On l'a en vidéo, une vidéo qui date de bien plus tard, hein, dans laquelle John Perry Barlow est en train de lire sa propre Déclaration d'indépendance du cyberespace. Mine de rien, c'est le fait que ce texte soit à ce point partagé à une époque où il y a une effusion idéologique autour d'Internet. On rappelle que c'est aussi une époque où l'altermondialisme rabeute pas mal de monde. La promesse de la possibilité de créer une gouvernance mondiale qui soit un peu différente qui sorte des habituels, tenants du pouvoir. Ça va donner du poids, en fait, à ce texte, alors que Internet est en train de s'ouvrir au grand public et que, du coup, la toile se restructure sous une ingérence marquée des gouvernements et des multinationales. Donc, tu l'as cité, effectivement, avec Bill Clinton, mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, donc, les multinationales ont vraiment l'intention de se partager le fromage, quoi. Et en gros, on a cette déclaration d'indépendance qui leur dit non, en fait, les gars, on était là avant vous, et voilà quelles seront les lois que nous, on va suivre, quoi. Donc, je ne suis pas juriste, je ne connais pas la valeur juridique d'un tel document, mais en tout cas, il y a un précédent, il existe une déclaration d'indépendance de ce territoire, qui est le cyberespace. On peut dire que dans notre conception européenne, le parcours de Barlow, donc du LSD de Grateful Dead, en passant par le voyage en Inde et la déclaration d'indépendance du cyberespace, pour nous, c'est un parcours typique de gauchiste, en fait. Typique de la libéralisation des mœurs de la fin des années 60, l'émancipation, les hippies, flower power, tout ce que vous voulez. Mais pourtant, aux États-Unis, on le qualifie beaucoup plus souvent de cyber-libertarien. Or, ce terme, libertarien, a tendance, nous, à nous perdre. Alors, je vais me risquer à le définir, au risque, évidemment, d'être très caricaturale.
Oui, d'ailleurs, un truc à préciser aussi, c'est que beaucoup de personnes, en tout cas, qu'on va citer dans l'émission, certains se revendiquent libertariens, d'autres pas du tout. Mmh. Certains ont été influencés par des personnes qui se revendiquaient libertariens sans le dire,
sans réclamer. Voilà,
ouais,
tout à
donc,
fait.
Ce qui explique aussi les contours un peu flous aussi.
Tout à fait. En gros, au cœur du mouvement libertarien, il y a une défiance vis-à-vis de l'État qui est vue comme une entité nécessairement malveillante, puisque donc l'État pratique la coercition. Par exemple, si je décide de ne pas payer mes impôts, eh ben, je risque tout simplement la prison, donc une forme de violence assez marquée. Le mouvement libertarien promeut ce qu'ils appellent donc un principe de non-agression, selon lequel tout ce qui enfreint la liberté individuelle devient de fait illégitime. Mm. En gros, pour caricaturer, le libertarisme serait l'antithèse absolue de l'autoritarisme.
Oui, c'est ça, et de l'étatisme.
Voilà. L'idéologie donc libertarienne prend sa source. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire, hein, parce que on débarque vraiment très très loin avec la philosophie classique, le siècle des Lumières, avec une primauté très très forte mise sur la raison. Ils ont pioché aussi un petit peu dans l'anarchisme, avec les écrits de Joseph Proudhon notamment. Et enfin, donc le libéralisme radical, parce qu'il y a effectivement la question de l'appât du gain, de l'argent, d'un moteur, on va
du
dire.
Du laisser-faire capitaliste, voilà. De l'individualisme.
Ouais. Voilà, il y a toute une mythologie de la conquête dans les mouvements libertariens.
Il y a même, différentes factions, certains qui se revendiquent d'un libertarisme de gauche, d'autres très conservateurs de droite.
C'est ça. Et donc, parmi les slogans libertariens, on peut lire « La guerre, c'est le meurtre, la taxe, c'est le vol, la conscription, c'est l'esclavage, et le gouvernement, c'est le chaos ». Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une époque très agitée, évidemment, au niveau des idées aux États-Unis, le mouvement a été très marqué par trois figures féminines qui ont vivement promu l'individualisme et le capitalisme. Donc, ces figures, c'est Isabel Patterson, Rose Wilder Lane et surtout la célèbre Ayn Rand.
La plus célèbre des trois, celle la plus connue en France, je dirais. Ouais.
Et qui est aujourd'hui, ça, pendant longtemps, elle a été très, très méconnue en France. Ouais. Il y a 10 ans, j'en parlais, personne ne voyait de référence.
Bah, j'ai le sentiment, en tout cas, que c'est celle dont les œuvres ont le plus infusé dans la culture populaire.
On va l'écouter 2 secondes, si on peut avoir le son. And that he must live by the independent judgment of his own mind, that his highest moral purpose is the achievement of his own happiness, and that he must not force other people, nor accept their right to force him, that each man must live as an end in himself and follow his own rational self-interest. Voilà, donc bon, en gros, on comprend que c'est une forme d'individualisme extrême.
Ah oui, complètement. Je vois juste quelqu'un qui dit qu'elle a inspiré le jeu BioShock avec le livre La Grève. Oui, alors tout à fait, mais il me semble plutôt que... Alors j'en avais discuté avec Ken Levine qui, lui, avait plutôt cité La Source Vive comme source d'inspiration. La Source Vive qui présente des personnages excessivement caricaturaux. Et lui s'était dit qu'est-ce que ça pourrait donner une fiction racontée avec les mêmes idées et qui critiquerait aussi, c'est la pensée objectiviste.
J'ai entendu aussi Ken Levine...
T'as vu, c'est le moment du flex.
Voilà. sur l'objectivisme précisément, mais il faut rappeler que le jeu BioShock est une critique de l'objectivisme, puisqu'il nous présente une société qui a suivi les enseignements d'Ayn Rand et qui en gros s'est autodétruite.
Ils sont dans un chaos total, pour expliquer. Oui, c'est ça, c'est une cité qui s'appelle Rapture, qui est détenue par un milliardaire qui imaginait une société utopique où ça finit très mal, excuse-moi, je t'ai coupé, je vais tirer beaucoup de tiroirs pendant cette émission, je suis désolée.
Tu es la bienvenue, et encore une fois, tu es ma Jean Peters adorée. Donc Ayn Rand va utiliser donc la fiction pour promouvoir ses idées, sa philosophie politique, qu'elle appelle donc l'objectivisme, vous l'avez entendu dans ses propos, et donc ses romans, donc La Grève et La Source Vive, sont parmi les plus vendus, les plus lus aux États-Unis au XXe siècle.
Oui, alors La Grève, et je vais citer Wikipédia, au contraire de Michel Houellebecq, je vais me permettre de le citer. Selon une étude de la Bibliothèque du Congrès américain et du Book of the Month Club menée dans les années 90, La Grève est le livre le plus lu, le plus influent sur les sondés, après la Bible. Voilà, rien que ça, quoi.
C'est pas rien. On en reparlera peut-être dans l'émission de l'impact que ça a eu sur la culture populaire américaine, hein, l'énorme succès de ces fictions, et donc bah, du coup de la philosophie politique portée par ces fictions. Donc le symbole du Parti libertarien, je crois qu'on a une image d'un des logos par lequel il se revendique souvent, c'est l'image d'un serpent à sonnette, c'est-à-dire un animal qui vit tranquillement sa petite vie, mais un serpent à sonnette qui est susceptible de mordre dès qu'une botte vient lui marcher dessus. Donc c'est ça, voilà, « don't tread on me », qui est donc, il y a quand même l'idée d'une défiance et d'un danger associé à l'individu. Et puis aussi cette idée, quelque part, d'une forme de sauvagerie. Enfin, on va dire, le serpent à sonnette, dans notre représentation, c'est un animal de l'Ouest sauvage américain. Là aussi, j'y reviendrai parce que je pense que c'est important de rappeler cette mythologie-là. Donc, assez fréquemment, en France, on a vu des libertariens être qualifiés de fascistes, parfois aussi de communistes. Donc, ce qui est un contresens, à mes yeux, puisque ces deux idéologies spécifiquement européenne, pour le coup, repose au contraire sur un État hyperpuissant, centralisé, totalitaire, coercitif, c'est-à-dire en gros tout l'inverse de ce que les libertariens ont prétention à défendre. Donc pour comprendre en quoi le libertarisme a beaucoup à voir avec l'histoire des États-Unis, on va rappeler juste deux choses. La première, c'est que la guerre d'indépendance américaine s'est faite au départ par un refus de payer les taxes à la couronne britannique. Donc cette idée, quand je prenais l'exemple tout à l'heure du côté coercitif de l'État qui t'oblige à payer les impôts, c'est quelque chose de très très marqué dans la mythologie américaine. Et enfin, lorsque ce gouvernement s'est créé, à l'époque, la moitié du territoire américain était totalement inconnue. Et ce gouvernement n'avait pas les moyens d'envoyer de son armée découvrir ces nouveaux territoires. Donc du coup, on a envoyé des migrants qui venaient d'arriver en disant « Allez-y, démerdez-vous, et vous aurez le droit, en gros, de récupérer tout ce que vous trouvez, quoi, de prendre possession de ce que vous trouverez. » Donc ça a été la fameuse conquête de l'Ouest, avec tous ces chariots d'hommes, femmes, enfants qui sont partis complètement à l'aventure dans l'Ouest sauvage. Et donc, il faut se dire que pendant plusieurs générations, dans l'Ouest américain, il y a eu une forme de société qui n'était faite en fait que de cellules familiales isolées les unes les autres, avec quasiment une absence quasi totale de gouvernement, et pourtant ça fonctionnait plus ou moins. Donc ça, cette imagerie en fait du cow-boy, enfin du rancher ou de la femme de rancher avec son fusil qui protège son territoire et tout, c'est un truc très 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 implanté dans l'idéologie libertarienne et puis de toute façon dans l'idéologie américaine en général, quoi.
Oui, c'est l'arrivée, pas pour rien qu'on vous a appâté avec des images d'armes à feu
et pour laquelle j'ai comparé la pauvre Julie à Jean Peters. Oui, voilà, dans les grands espaces, mais elle est formidable, tu vas aussi craquer pour elle, je te le garantis. Il y a vraiment cette idée de fuck around and find out, c'est-à-dire je vous embête pas, je vous fais pas chier, j'ai mon territoire, vous avez le droit de passer avec vos choux et tout, mais si vous dépassez certaines limites, je sors le fusil. On n'a pas du tout cet héritage en Europe. Et c'est, je pense, ce qui nous empêche de vraiment comprendre pas mal des soubassements, on va dire, de l'idéologie, d'une certaine idéologie américaine. Donc, du coup, on peut peut-être mieux comprendre pourquoi la structure même d'Internet a pu séduire des individus qui ont grandi dans ces mythologies. On rappelle qu'Internet, en gros, c'est il n'y a pas de pouvoir central, quoi.
Oui, un endroit complètement décentralisé.
C'est un en théorie, il n'y a pas de noyau, donc il n'y a pas de gouvernement, mais une infinité d'unités connectées qui, dans leur interaction librement consentie, créent donc cette fameuse toile, ce fameux web, qui pourrait rappeler toutes ces petites fermes étalées sur le territoire américain qui ont très bien fonctionné ensemble, qui se sont parfois choisi des shérifs pour les protéger quand elles en avaient besoin et tout, mais qui n'avaient pas forcément besoin d'un gouvernement, d'une entité centrale. Et d'ailleurs, lorsque le gouvernement américain a vraiment pris possession de l'ouest des États-Unis, c'est aussi l'époque où les grands capitalistes sont venus prendre possession à travers les grandes fortunes du rail, du métal, et puis plus tard du pétrole et tout ça. Donc, bah, je vous renvoie au film La Porte du Paradis. Bon, il y a une petite guerre idéologique qui s'est jouée aux États-Unis à ce niveau-là entre un pouvoir centralisé identifié comme malfaisant, donc maléfique, et des braves gens qui ne font que défendre leur petit territoire. Et donc, bah, il y a cette ferme... donc, c'est un espace à conquérir, Internet, et donc qui invite la figure de l'entrepreneur. Et la figure de l'entrepreneur... Chez les objectivistes, chez les libertariens, c'est quasiment le chevalier des temps modernes. Hein. C'est un super-héros. Là aussi, en Europe, on n'a pas du tout cette image des entrepreneurs. Et donc, ben, les objectivistes, par exemple, ils croient très fermement à l'appât du gain et à ce qu'ils appellent parfois un égoïsme vertueux. Je mets des guillemets partout.
Oui, avec des gros guillemets, parce qu'effectivement, oui, ce serait l'idée que, en gros, l'enrichissement d'une personne puisse tirer tout le monde vers le haut.
C'est et, ça.
Voilà, parce que dans les faits, c'est comme ça que ça se passe.
C'est ça.
Voilà.
Qu'un individu qui fait tout pour sa pomme, mais qui le fait bien, du coup, voilà. Et le principe, le roman La Grève, donc ce roman ultra lu de Ayn Rand, raconte carrément... l'histoire de grands entrepreneurs qui, en gros, en ont marre de tirer la société vers le haut parce que les gens ils font chier, en gros, et qui décident de faire la grève, c'est-à-dire de partir, fonder leur propre monde ailleurs en laissant les humains, en gros, en laissant la société s'écrouler, quoi. Donc, il y a cette croyance que les très fermes que sans ces grands entrepreneurs, on serait tous foutus.
Que ferait-on sans Elon Musk ? C'est ben vraiment, oui, je te pose la question. Hein.
Et donc, il y a aussi donc, cette croyance que le laisser-faire, et là, j'insiste, un laisser-faire absolu, ne génère pas le chaos, mais au contraire, une activité créatrice qui puisse bénéficier à tous. Et donc là, on va se poser la question, parce que effectivement, beaucoup des créations associées à ces libertariens, à la Silicon Valley, ont donné des choses qui ont, pour le coup, montrer qu'elle pouvait fonctionner.
Oui, bah, y a l'exemple de Wikipédia, par exemple.
Wikipédia est un exemple fameux. Donc, Jimmy Wales voilà, se présente comme un libertarien.
Oui, et, complètement. Jimmy Wales, dont vous connaissez peut-être la tête, parce qu'il nous réclame quand même fréquemment de l'argent. en tout cas, moi, quand je vois Wikipédia, j'ai souvent cette impression-là. Qui va cofonder Wikipédia en 2001. Alors, Wikipédia, à l'origine, c'était une filiale, enfin, en tout cas, un projet secondaire de Newpedia. Alors, Newpedia, ça reposait sur le même principe, c'est-à-dire une encyclopédie... une encyclopédie, mais dont les nouveaux articles devaient être validés par un comité scientifique, ce qui faisait que forcément il y avait un processus assez long pour que l'encyclopédie puisse s'étoffer. Donc frustré par ça, Larry Sanger, donc l'autre cofondateur de Wikipédia, suggère l'idée à Jimmy Wales de faire une encyclopédie complètement libre, donc où tout le monde pourrait participer. Et qui reposerait donc exclusivement sur des rédacteurs bénévoles où il y aurait donc toute forme de participation. Alors, pour le coup, Wikipédia, donc, c'est aussi un projet qui a été maintes fois décrié, qui a été accusé d'avoir des formes de biais. On ne peut pas non plus affirmer qu'il n'y a que des rédacteurs bénévoles dessus parce qu'en fait, au fil de ces dernières années, on a aussi vu se développer des agences de création de contenu, par exemple, qui se proposent d'écrire des pages Wikipédia pour des personnes moyennant une certaine somme. Mais le projet d'origine, en tout cas, a eu un succès retentissant. Ça reste quand même une ressource très, très utilisée par des millions de personnes dans le monde. Mais il y a aussi, en fait, cette idée de transparence, en fait. Enfin, quand on voit une page Wikipédia, on a moyen d'accéder à toutes les éditions et les guerres d'édition qu'il peut y avoir. D'ailleurs, parfois, les débats qu'il peut y avoir sur un seul terme, quoi.
Oui.
Ah bah oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Xiso. Le fait que sur Wiki, certaines pages, on voit qu'il y a un souci quand même. Bah oui, tout à fait, bien sûr, parce que ça dépend aussi des personnes qui les éditent. Et c'est pas pour rien que quand on a une page Wikipédia sur un événement récent, on aura systématiquement la mention « Attention, c'est un événement en cours » et il va y avoir toutes sortes de choses. J'ai déjà eu parfois des visions rares sur Wikipédia de personnes, tu sais, qui avaient édité juste pour me faire une blague sur un de leurs camarades de classe. Ce genre de choses peut arriver, évidemment, et il y a des biais. C'est impossible pour un lieu comme Wikipédia d'être complètement neutre.
C'est ça. Donc voilà, et on a eu toute cette idée aussi de l'open source et tout ça. Enfin voilà, donc...
Ah, le micro, mais alors attends, c'est quoi le souci avec le micro ? Il faut que je fasse gaffe à quoi ?
Aux cheveux, peut-être ?
Ah, les cheveux, ah, c'est terrible, je suis désolée. Hein. Ouais. Désolée pour vous, auditeurs, enfin spectateurs. C'est quand je tape avec mon bras.
Ouais, parce que tu tapes souvent.
Mais c'est fou, non, mais c'est l'enthousiasme, c'est violent, c'est l'enthousiasme quand je parle de Wikipédia. Hein, ah, Sacha n'entend rien de grave avec le micro, merci Sacha.
Donc, voilà, Julie a cité Jimmy Wales, on a parlé de Ron Swartz tout à l'heure, on pourra aussi citer... je crois qu'on a un extrait, Antoine, du film Snowden de Oliver Stone.
Oui, alors sans sous-titre français, mais on peut vous les faire en direct. Rafik peut vous les faire en direct.
Où on lui demande, en fait, quelles sont ses influences.
I'd say Joseph Campbell.
Donc ici, Joseph Campbell, évidemment.
Star Wars,
normal.
Thoreau. Ayn Rand.
Et cite, il a, donc là, c'est mal traduit, mais il a cité donc Thoreau et Ayn Rand. Donc ça, c'est documenté. Hein. C'est effectivement comme ça que Snowden s'est présenté. Donc bon, sur Joseph Campbell et Star Wars, je me dis, mais comment peut-on faire autrement hein. Mais je lui laisse Thoreau et je lui laisse Ayn Rand. Mais enfin, voilà, Edward Snowden se réclame donc de
l'objectivisme.
Julian Assange... Bah, c'est présenté comme libertarien. Donc John Gilmore, qui a entre autres créé la hiérarchie alt sur Usenet dans les années 90, qui a participé aussi au projet GNU, que devraient bien connaître certains hackers qui pourraient nous suivre, est un libertarien. Donc John McAfee, le créateur de cet horrible antivirus qui s'installe alors que vous n'avez rien demandé, était un libertarien. Et donc, bah, on l'a vu, Elon Musk.
Ouais, Elon Musk. Voilà. D'ailleurs, justement, lui, quand même, son grand discours au moment du rachat de la plateforme pour la modique somme de 43 milliards de dollars, si je ne m'abuse, son gros discours, c'était de dire que voilà, Twitter n'était plus représentatif de la voix du peuple. Et encore une fois, je mets des gros guillemets. Il trouvait par exemple le système de vérification donc était attribué traditionnellement aux journalistes, aux personnalités publiques et aux entreprises complètement abusé. Ce qu'il en a fait finalement, c'est un système en fait où il faut payer pour être visible par la plateforme en fait. C'est bref.
Oui, non, mais en tout cas, il s'est présenté effectivement comme un absolutiste de la liberté d'expression.
C'est le discours qui revient le plus souvent, oui.
Tous les travers que ça peut entraîner. Du coup, Peter Thiel, son collègue avec qui il avait co-créé PayPal, est un libertarien aussi. Donc, l'ironie de l'histoire, c'est que ce terme techno-libertarien, il a été popularisé par une de ses plus virulentes critiques, à savoir la journaliste Paulina Borsuk, dont je crois qu'on a quelques images. Paulina Borsuk, elle avait écrit, donc, elle a sorti en 2000, c'était une journaliste du magazine Wired, donc voilà, elle était aux premières loges de ce qui se passait à la Silicon Valley, et donc elle avait écrit ce livre qui s'appelait « Cyber Selfish », qu'on peut traduire par « cyber égoïste », et donc elle a vu, en gros, la construction d'un discours ultra-capitaliste très agressif dans un total refus de la régulation, se construire à la Silicon Valley. Et elle avait le sentiment, très justifié je pense, que c'était quelque chose qui n'était pas compris par les médias, c'est-à-dire qu'on présentait plus souvent la Silicon Valley comme un havre d'anciens hippies, hyper communautaires et tout ça, là où elle disait, attention, enfin, l'appât du gain, il est violent. Donc je la cite, la Silicon Valley se présente comme une méritocratie, ce qu'elle n'est pas. C'est une loterie où on fantasme sur un succès qui reposerait sur l'intelligence. Il s'agit en réalité d'un sentiment calviniste de supériorité qui ressemble beaucoup à l'étude qu'a fait Max Weber sur les origines du capitalisme dans le protestantisme. La Silicon Valley est majoritairement blanche et asiatique et fonctionne sur l'idée que si le marché ne valide pas vos idées, vous êtes inférieur intellectuellement. Plus tard, plus loin dans l'interview, elle dit « La plupart des gens ici utilisent des métaphores biologiques pour parler de leur organisation et de leur projet, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont en fait des darwinistes sociaux. » Donc voilà, ce n'est pas du tout l'image idéaliste qu'on avait de la Silicon Valley.
D'ailleurs, je serais même curieuse de savoir, parce que c'est vrai que ce terme a été employé par une personne qui visait à les critiquer. Est-ce que certaines de ces personnes, alors à ma connaissance, non, se sont revendiquées techno-libertariens ou cyber-libertariens ? J'ai pas trop ce sentiment, justement.
Excuse-moi, parce que j'ai été pris par des questions sur
oui,
le
Oui, et
sur
toutes
le
ces
chat.
Questions-là, d'ailleurs, on en parlera plus tard. On parlera un petit peu aussi des personnalités publiques qui se revendiquent du libertarisme. Mmh. Non, c'était plutôt, est-ce qu'on a déjà vu des techno-libertariens se revendiquer par ce terme qui, justement, était une critique à l'origine?
Pas vraiment. Alors, les libertariens sont un petit peu... Bah, c'est un peu comme la gauche française. Hein. Ils sont très forts pour s'auto-détruire, se saboter. Déjà, dans leur histoire, ça a été une succession de guerres intestines violentes. J'ai dit tout à l'heure que Ayn Rand refusait strictement d'être assimilé au libertarisme. Noam Chomsky, qui à une époque a été proche d'eux, a passé le reste de sa vie à leur cracher dessus, aller ailleurs de tout cœur. Donc c'est en gros, libertarien, c'est le terme général de cette idéologie opposée à l'autoritarisme supposé au réel de l'État. Mais chacun y va de sa petite philosophie personnelle, de son petit mouvement, etc. Et un gars comme, comment il s'appelle, Murray Rothbard, c'est ça, hein, ça, je prononce bien, Rothbard, pardon. Murray Rothbard avait tenté dans les années 70 de regrouper les libertariens à gauche et à droite, dans l'idée de fonder justement un parti puissant, et il s'est pris des boulets de canon de tous les côtés. Enfin voilà, donc c'est voilà, le seul qui a plus ou moins réussi à créer quelque chose de cohérent sur la scène politique américaine, c'est Ron Paul, qui s'est présenté... je crois, aux élections présidentielles de 2008 et 2012. Et c'est d'ailleurs à travers lui que beaucoup de jeunes libertariens ont émergé, en fait, parce que son discours a quand même été combattu par les médias, mais il a quand même été porté parce qu'il était candidat officiel et qu'il a fait un score assez, assez important. En gros, il piquait quand même des voix à droite, à gauche, quoi. Donc Rand Paul, ouais, c'est pratiquement le seul. Après, effectivement, comme je le vois dans le chat, dans la culture populaire, on a plus souvent des gens qui s'en réclament plus librement, on va dire.
Ou d'autres qui ne le font pas, mais une analyse de leur œuvre peut laisser penser qui partagent des pensées communes, en tout cas.
Très clairement, oui. Là, j'ai vu qu'on avait cité Clint Eastwood d'un côté et Trey Parker, le créateur
alors,
de South
Eastwood,
Park.
Clint Eastwood, pour le coup, lui, il a été... je ne sais pas comment formuler ça, mais il a officiellement une carte du libertarien. Il a été, en tout cas, assimilé.
Il a été dans le camp républicain. Comme John Perry Barlow, dont on a beaucoup parlé en début d'émission, il faut rappeler qu'à une époque, il a été proche de Dick Cheney, dont il s'est ensuite complètement détaché lorsque Dick Cheney passé dans le camp des néo-conservateurs. À l'époque, John Perry Barlow, qui avait l'habitude de voter républicain, a refusé de voter Bush parce que, en gros, il ne se reconnaissait pas du tout dans la politique ultra-expansionniste, impérialiste de cette administration. Encore une fois, on rappelle, historiquement, les libertariens sont très, très opposés à la guerre, à la conscription et donc, du coup, à l'invasion des territoires d'autrui, puisque leur principe... Central, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est le principe de non-agression.
Ouais. Tu citais Trey Parker. Alors, Trey Parker et Mason, c'est un peu plus compliqué parce que c'est beaucoup de gens estiment qu'ils sont libertariens. Mais alors, quand ils ont été... je ne sais plus en quelle année c'était, mais en 2004, dans une interview pour Rolling Stone, justement, on se sont montrés plutôt critiques, en tout cas, de cette étiquette qu'on voulait leur apposer. Bon, ils ont toujours eu ce côté-là aussi à dire, nous, en fait, on se fout de la gueule de tout le monde.
Bah, oui.
On n'est pas vraiment d'un côté comme de l'autre. En tout cas, ouais, peut-être que Trey Parker, à une époque, se revendiquait libertarien. Mais je sais qu'ils ont aussi été critiques envers cette étiquette. Quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est pour Trey Parker.
On a fait la remarque à Brad Bird, qui s'en est souvent défendu en interview, d'être libertarien, mais en même temps...
Tout en tenant des discours
quand on regarde ses films,
quand on regarde ses films, ça...
Les Indestructibles et Tomorrowland, à la poursuite de demain, qui sont deux films qui mettent en scène une certaine idée de l'excellence et de l'individualisme.
Lui-même a déclaré en interview, en tout cas qu'il croyait fermement à cette idée d'être exceptionnel qu'il faudrait laisser faire, en fait, justement, pour, encore une fois, tirer le monde vers le haut. Enfin, c'est vraiment cette image... je voyais quelqu'un qui citait dans le chat le nom anglais d'un des livres d'Ayn Rand, Atlas Shrugged, mais c'est vraiment ça, l'image d'Atlas qui porte le monde sur ses épaules.
D'autres qui ont eu une grosse importance dans la culture populaire, je pense, et qui, pour le coup, se réclamaient du libertarisme. Il y a eu Steve Ditko, donc un des plus grands dessinateurs de l'écurie Marvel, hein, ouais. Vraiment, qui a été jusqu'à tenter de créer un super-héros libertarien à une époque, mais qui n'a pas forcément marché. Mais bon, il était comme on le trouvait derrière Spider-Man, Hulk et tout ça. Et au fond, ça, c'est pas si étonnant, cette idée du super-héros comme étant un personnage libertarien, parce que justement, il a ce pouvoir qu'il doit utiliser pour... dont il doit apprendre quoi faire du pouvoir qui lui a été donné. Robert Heinlein, qui est aujourd'hui en France surtout connu parce que c'est l'auteur de Starship Troopers.
Étoile garde à vous.
Étoile garde à vous, voilà. Et qui, lui, était clairement se déclarait comme libertarien. Enfin, voilà, on en a eu pas mal. Mais encore une fois, c'est jamais très clair. C'est-à-dire que c'est inspiré par, et en même temps, ça peut être critique. Mmh. Comme dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure de Brad Levin et de son jeu vidéo. De Ken Levin.
Ken Levin, oui, bien sûr.
Et de son jeu... aide-moi, j'ai oublié le
jeu. Bioshock,
merci. Et de sa série Bioshock, voilà, qui est une série qui... Oui, bien sûr, qui est inspiré d'écrits libertariens, mais qui n'est pas dupe, on va dire, des excès de cette philosophie politique, quoi. Mais bon, la question centrale de cette émission, c'était ça. C'était donc déjà de rappeler qu'ils ont réellement été présents dans la constitution de la Silicon Valley. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est. Elon Musk est un des résidus, on va dire, peut-être de cette époque-là. Je n'ai pas l'impression que la Silicon Valley actuelle soit si libertarienne que ça.
Non, mais en tout cas, le constat qu'on a fait, c'est que beaucoup de sites qu'on fréquente énormément aujourd'hui, que ce soit Wikipédia ou X, ça y est, je me suis résolue à le dire maintenant, anciennement Twitter, découlent d'une manière plus ou moins indirecte de cette idéologie, quoi.
Et donc, la question, c'était est-ce que la structure même d'Internet ne découle pas de cette idéologie-là. Qu'est-ce que tu dis, quoi ?
Non, c'est le fameux X. Non, mais c'est parce que c'est terrible. Je crois que personne n'arrive à parler de X en parlant uniquement de X. Tout le monde dit X, anciennement tweet.
Quelqu'un posait la question, est-ce qu'il existe des libertariens pauvres ?
Alors, je n'en connais pas. Oui. Honnêtement, je n'en connais pas. C'est vrai que dans tous les exemples qu'on a cités, c'est quand même des personnes qui ont éminemment profité de leur idéologie. C'est... Honnêtement, non, je serais étonnée.
En tout cas, il y a une chose qui revient assez souvent au sujet de certaines figures du libertarisme associées à Internet. C'est d'une part celles qui font l'objet de poursuites violentes de différents gouvernements. Je pense évidemment à Julian Assange à Edward Snowden.
Swartz aussi.
Et Swartz, du coup. Et aussi, peut-être, d'une difficulté à croire, d'une difficulté qu'a la communauté à croire à leur mort naturelle lorsqu'ils viennent à mourir. Parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de... doutes.
Il y a eu beaucoup de théories, concernant Swartz et John McAfee. Ouais.
Sur la mort de John McAfee, sur la mort de Swartz, sur la mort de John Perry Barlow, qui pourtant est mort dans son sommeil, mais qui, pour certains, était devenu une telle épine dans le pied d'un pouvoir central supposé que sa disparition ne pouvait que rendre service à certains. On rappelle que John Perry Barlow a été très ami avec JFK Jr., à la fin des années 90, qui lui aussi est mort dans des circonstances qu'on n'a jamais tout à fait acceptées comme telles, dans un accident d'avion, alors que c'était un excellent pilote.
Tout à fait, on a un rappel salutaire dans le chat de Ravachol qui nous dit bien sûr qu'il y a des pauvres qui adhèrent à cette idéologie persuadés que ça les mènera vers vers un avenir meilleur. 50% des Argentins soutiennent Milei, pour rappel. Oui, tout à fait, qui se revendique libertarien.
Et
qui est même le premier président à se revendiquer libertarien.
Ouais. Et du coup, alors moi j'avais une question que j'avais écrite lorsque j'étais à l'hôpital, donc je ne sais pas si on va avoir la force de l'aborder. En fait, je me demandais si le libertarisme était à la tech ce que l'héritage judéo-chrétien avait été à la théorie scientifique, parce que donc
Je t'ai expressément dit en début d'émission, tu vas me regarder, je ne pourrais absolument pas répondre à cette question, c'est un sujet de dissertation que, sur lequel vous pouvez méditer.
Parce évidemment. Qu'en fait, voilà, il y a cette...
Merci le numérique.
Il y a cette apparente contradiction comme quoi, effectivement, l'Église chrétienne catholique européenne a été la première à fonder des universités, des lieux de savoir qui vont mener à une théorie scientifique qui, d'une certaine manière... va destituer l'Église, en fait, qui la nourrit, quoi, si tu veux. Quand la théorie scientifique va découvrir, en gros, par l'exercice de la logique. et du coup, je me demandais si l'univers de la tech et d'Internet ne fonctionnait pas de la même manière avec le libertarisme. C'est-à-dire, quand même, une idéologie qui a surtout émergé, vers le milieu du XXe siècle aux États-Unis et qui arrivait à son pic dans les années 90 à la Silicon Valley, générant en fait un mouvement qui va en fait détruire le libertarisme de l'intérieur, enfin, alors que c'est le mouvement qui l'aurait nourri. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais c'était en fait... Voilà,
Non mais moi rien que sur l'intitulé, tu m'avais perdu, Rafik.
Mais je posais la question.
Non mais c'est bien de la poser.
Alors quelqu'un parle de Michel Audiard comme étant un libertarien français. Oui, c'est ce qu'en France on appelle un anarchiste de droite. Et il y en a effectivement beaucoup dans les milieux artistiques français, beaucoup plus qu'on voudrait le croire. Ceci dit, j'ai réalisé en préparant ce conducteur d'émission qu'on ne savait pas trop de choses concernant les grandes figures de l'Internet français.
Oui.
Voilà,
qui pourrait aussi faire l'objet d'une émission, hein, franchement.
Mais, un Xavier Niel, finalement, on ne sait pas exactement pour qui il roule, philosophiquement et politiquement parlant, à part qu'il a acheté le Monde, quoi. Je pensais à... c'est Jean-Marie Pilou, c'est ça, le créateur de Comment ça marche. Comment ça marche, c'est un site qui s'est vraiment construit d'une façon... très libertarienne, puisqu'il y avait cette conviction que si on laissait les gens répondre à des questions. Et que ces questions étaient ensuite votées par la communauté, ça allait mécaniquement amener les meilleures réponses aux questions.
C'est vraiment sur le même système que Reddit, quoi.
Exactement. Ouais. Donc tout le monde lui avait prédit que ça serait n'importe quoi, ça serait une catastrophe, et ça a tellement bien marché qu'ils se sont même retrouvés à développer un comment ça marche médical et qui a l'air de fonctionner. Donc il y a cette croyance qu'une forme de laisser-faire assez poussée peut rendre service, on va dire, quoi, de la même façon que Wikipédia et compagnie. Donc il y a peut-être quelque chose d'un petit peu libertarien aussi dans la démarche de Piou et de son site Comment ça marche.
Quelqu'un nous dit, je ne sais pas si vous avez parlé de l'expérience libertarienne dans une petite ville du New Hampshire, il y a eu un livre dessus, Chacun pour soi.
Non,
le titre est très parlant, je regarderai ça.
Non, mais ça peut ressembler aux multiples... expérience anarchiste qu'on a pu avoir en Europe, comme d'habitude, ces expériences...
À l'échelle d'une ville, en tout cas, je serais
pendant la guerre civile espagnole, il y a eu des parties du pays qui sont vraiment tombées sous la gouverne anarchiste. Ça fonctionne, et puis après, il y a des guerres intestines, les communistes qui viennent sabrer tout ça. Enfin, il y a toujours quelque chose qui vient contrecarrer, on va dire, le quelqu'un qui parle de la CNT, évidemment. Voilà.
Il y a quelqu'un qui demandait plus haut d'air si on avait cité des femmes libertariennes, et en fait, non, hein, finalement. Enfin, je veux dire, on a parlé de Ayn Rand, en tout cas, de personne qui se revendique du libertarianisme aujourd'hui, aujourd'hui, j'en ai pas en tête, honnêtement.
Enfin, voilà.
Spoiler, ça s'est mal fini avec des ours, d'accord. j'ai très hâte de lire ça, merci beaucoup.
Du coup, voilà, c'était un peu notre tentative de faire le tour de cette question.
D'en effleurer les contours, comme d'habitude.
Mais de rappeler que, en gros, Internet s'est aussi construit, en partie du moins, autour de cette idéologie qu'on a encore un peu de mal à comprendre en France. Tu vas rire, je suis un petit fils d'immigré espagnol, anarchiste espagnol, Jacques Serra, catalan qui a combattu Franco. Mais parce que, effectivement, durant la guerre civile espagnole, il y a eu des vraies tentatives de sociétés anarchistes qu'ont pu émerger, en fait. Hein, mais, et c'est intéressant de voir comment elles se sont écroulées, pas forcément de la manière avec laquelle on s'y attendait, mais plus par la trahison. Alors, est-ce que la Silicon Valley...
valait le coup.
Bravo. Est-ce que la Silicon valait le coup? Voilà, on va...
Je pense qu'on ne pourra pas faire mieux que ce jeu de mots. C'est ouais. Vraiment merci, hein, Xissou Xissou. Oui, bah oui, et ce résumé de Cétoran qui dit « Le libertarisme des débuts d'Internet était transversal de gauche à droite, a évolué plus tard vers la droite extrême ». Effectivement, les personnes qu'on cite aujourd'hui, que ce soit Peter Thiel ou Musk, effectivement, sont plutôt vers ce courant-là, ouais, effectivement.
Ceci dit, encore une fois, je rappelle que John Perry Barlow était plutôt dans le camp républicain, même si encore une fois, même si le portrait du personnage, pour nous Européens, c'est très difficile de le voir comme un mec de droite. Mais il avait quand même des valeurs conservatrices dont il ne s'est jamais débarrassé. Je rappelle qu'il a grandi quand même dans un milieu mormon.
Devant des télévangélistes. Voilà.
Et puisqu'on parle d'ailleurs de communautés qui peuvent se passer de gouvernement, je rappelle que les États-Unis sont un peu spécialistes de ça. Enfin, on a une communauté qui s'appelle les Amish. Ils n'en ont pas grand-chose à fiche du gouvernement américain. Et quand même, ça fait, trois siècles sont là et qu'ils font chier personne. Donc, oui, peut-être qu'à ce niveau de non-technologie, peut-être que le...
Après, ils ont quand même droit au Rumspringa, quand même, ce fameux moment où ils peuvent aller dans le monde moderne. Pour voir, mais alors je crois que les taux de personnes qui choisissent de revenir au sein de la communauté Amish est monumental. Je crois que c'est 94% des jeunes qui reviennent.
On peut vivre sans idéologie, ce que j'essaye. Ouais. Écoutez, oui. Merci de nous avoir suivis.
Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir tolérés pendant ce sujet qui était un petit peu compliqué à mettre en place. On ne sait pas encore, on sait qu'on revient en janvier, mais on ne sait pas encore de quoi on va parler.
Si, on avait évoqué un sujet, on ne va pas le spoiler, mais on avait
évoqué un truc. Oui, voilà, au cas où on change d'avis, on ne sait jamais, mais a priori, ce sera moi à la présentation cette fois-ci.
Et moi, je vous invite à aller voir donc, les grands espaces, hein. J'ai beaucoup parlé de Conquête de l'Ouest.
Ah, je vais complètement aller voir les grands espaces après et lire chacun pour soi.
C'est vraiment un super film de William Wyler, et vous allez voir Julie dans le film, elle est comme ça, quoi.
Salut et bonne fête de fin d'année à tous.
Merci à tous, à bientôt, ciao.